confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies.
Alors, l'homme qui a tué une policière le 27 mars 2023, Isaac Brouillard-Lessard, il avait des troubles mentaux. Ça faisait 5 fois. 5 fois qu'il avait été arrêté, qu'il était devant la commission d'examen des troubles mentaux. On disait non, tu ne constitues pas un danger, tu ne représentes pas un danger pour la population. Il retournait dans la rue, il se faisait arrêter, il retournait devant la commission d'examen des troubles mentaux. Et là, il y a un texte du Devoir, une enquête très intéressante. Il y a des gens qui sont déclarés non criminellement responsables à répétition. Comment ça se fait que ces gens-là qui ont commis des gestes violents ne sont pas hospitalisés de force? On va en parler avec le docteur Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Bonjour, docteur Chamberlain.
Bonjour.
Ça pose une sacrée bonne question, là. Est-ce que ça vous inquiète, vous, docteur Chamberlain, de voir qu'il y a autant de gens qui sont connus, des policiers connus du système, puis qui retournent tout le temps à la rue, se refont arrêter, repensent devant la commission d'examen des troubles mentaux, sont retournés à la rue? Qu'est-ce que vous en pensez?
Effectivement, il y a une porte tournante ici là qu'on voit. Il y a peut-être 2 explications à ça. Une qui serait peut-être plus simple à régler que l'autre. La première, c'est que vous avez mentionné que les gens présentent plus un danger pour la société, donc sont remis en liberté. C'est même pire que ça. C'est que le critère, c'est pas de représenter un danger, c'est de représenter un danger important. Si on représente pas un danger important, la commission doit libérer les personnes qui sont détenues. Faut rappeler que lorsque ces personnes-là sont à l'hôpital, elles sont détenues à l'hôpital. C'est quand même c'est la même détention que si c'était à Port-Cartier ou ailleurs. Donc l'hôpital doit avoir des structures qui permettent de le détenir. Mais la commission doit le libérer, elle n'a même pas le choix, s'il présente pas un risque important. C'est important le problème, parce que on peut présenter un risque sans présenter un risque important, et là, la commission doit le libérer. Donc, il y a ce critère-là qui est dans la loi, qui est un choix de société. C'est nous qui l'avons choisi, puis on faut vivre avec. Si quelqu'un présente juste un danger, il doit être libéré, c'est comme ça. L'autre problème, c'est que ces gens-là, d'après moi, sont pas assez judiciarisés. On a vu les policiers avec raison dire ça a pas de sens. Mais souvent, quand on veut judiciariser ces cas-là, les policiers nous disent, puis là j'en ai des milliers d'exemples, là, c'est partout, c'est constant à tous les jours, où les policiers vont dire, ben là, si on l'arrête, puis si on met des charges dessus, ils iront même pas devant les tribunaux, ou ils vont le déclarer non responsable, ça donne rien. C'est pas vrai que ça donne rien. Je vous donne un exemple, là, l'exemple extrême. J'ai quelqu'un moi que j'avais reçu pour un méfait, pour avoir cassé, il avait cassé une vitre, et il est resté 10 ans à Pinel parce qu'on s'est aperçu qu'il était extrêmement dangereux, puis c'est un hasard qu'on l'ait arrêté parce qu'il cassait une vitre. Donc c'est une porte, ça peut être une porte d'entrée du système si on se donnait la peine de judiciariser puis laisser la société décider est-ce qu'il est responsable ou non responsable. Puis s'il est non responsable, ben qu'on le suive, que la commission d'examen soit dans le dossier, qu'on puisse le suivre, parce qu'il y a beaucoup, carrément, des agressions sexuelles qui sont faites dans les urgences, des patients qui vont se permettre de prendre la poitrine d'une infirmière, de pincer une fesse, des patients qui vont menacer, qui vont briser des choses, et ils le font sans conséquence parce que ce n'est pas judiciarisé. Et ça devient un problème important parce que les patients le savent aussi qu'ils peuvent se permettre ça.
Est-ce que c'est parce que il fut un temps au Québec, c'était trop facile de faire interner quelqu'un? Quelqu'un est un petit peu dérangeant, il y avait des chicanes de famille, etc. Ah, cette personne-là a des troubles de santé mentale, boum, à l'asile. Et qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Ça se peut, ça?
Il y a ça. Ça, c'est plus les lois au civil. Avant que quelqu'un fasse un crime, en prévention, effectivement, là, faut être plus prudent parce que c'est un citoyen qui a pas encore été déclaré coupable, qui a tous ses droits. Là, c'est plus délicat. Comment on va faire pour amener cette personne-là à être gardée à l'hôpital quand elle n'a pas été jugée? Encore ici, les lois sont très pro-liberté. C'est un choix de société, puis c'est correct. Mais ici, il faut attendre que quelqu'un présente un danger grave et immédiat avant de pouvoir juste le faire évaluer. Fait que on voit que les lois sont faites pour que les gens gardent leur liberté, ce qui est pas mauvais. Mais en même temps, il faut s'attendre à ce que si on met la barre d'un danger grave et immédiat avant de faire quelque chose, ben des fois la première manifestation, c'est quelque chose d'effectivement sérieux.
Est-ce que la désinstitutionnalisation avait été... est-ce qu'on est allé trop loin? C'est-à-dire, on dirait qu'on a pris ça pour des raisons économiques, là, qu'on a fait ça, la désinstitutionnalisation, pour des raisons surtout économiques, parce que on voit des gens là, ici, là, constamment, quand je sors de Cube Radio, je vois des gens délirés dans la rue, puis tout ça. C'est le coin là, devant la place Émilie-Gamelin, là, où il y a des gens qui ont des problèmes, puis en même temps, on sait pas, ils sont-tu dangereux, ils sont-tu pas dangereux, ils font pitié en même temps, tout ça. Puis je me dis, coudonc, leur place, ces gens-là, c'est pas dans la rue, ils seraient beaucoup mieux dans un institut psychiatrique où on prendrait soin de ces gens-là.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. La notion d'asile, c'est pas quelque chose de péjoratif.
Ben oui.
Ça l'était devenu au fil du temps, mais un asile, c'est positif. On aide les gens, puis on leur permet de prendre un répit puis du repos. Au départ, la désinstitutionnalisation, c'était nécessaire. Les traitements se sont améliorés, la médication s'est améliorée. Il y a des gens qui étaient à l'hôpital pour rien. Donc, c'était assez facile de les sortir puisqu'ils étaient assez stabilisés. Mais là, comme vous dites, pour des raisons économiques, on s'est dit, bon, mais les hôpitaux coûtent cher, on va essayer d'en sortir le plus possible. Mais plus on veut sortir des patients qui demeurent avec des symptômes, plus ces patients-là ont besoin de soins dans la communauté. Et à un moment donné, il n'y a plus d'économie à faire. Les soins que nécessite le patient dans la communauté vont finir même peut-être par coûter plus cher que ce que ça coûterait dans une institution adaptée. Fait que oui, malheureusement, je pense que ça a été fait pour des raisons économiques et l'argent n'a pas suivi pour qu'on puisse traiter ces gens-là adéquatement en société.
Et j'imagine, mettons une mère de famille, là, elle a un enfant qui a des problèmes de santé mentale vraiment graves. Et cet enfant-là est arrêté parce qu'il a commis des gestes violents et il est retourné dans la population, libéré, là, parce qu'on dit, bon, il représente pas un danger important. La mère, elle veut pas que son enfant traîne dans la rue, c'est clair, elle veut pas qu'il soit itinérant puis qu'il soit, mettons, qu'il se batte puis ouais, qu'il y a des pushers qui tournent autour de lui puis tout ça, fait que veut pas, elle dit viens-t'en vivre à la maison avec moi, mais là elle se met en danger elle parce que c'est arrivé, on l'a vu, hein, des crises, des parents qui sont tués par leurs enfants en crise, c'est pas évident, donc cette femme là pour la protéger, cet enfant là aurait dû être dans une institution, c'est certain que si on ne garde pas à l'hôpital, ben la mère va avoir le réflexe et le père de le prendre à la maison, puis ils vont se mettre en danger.
Effectivement. Il y a quand même des ressources qui existent. La commission d'examen, si elle libère quelqu'un, elle ne le libère pas nécessairement inconditionnellement. Elle peut le libérer avec une obligation de demeurer dans les ressources. Mais en ce moment, le temps d'attente est assez long, les ressources sont débordées. Et l'autre problème, c'est que encore là, on attend à partir du moment où quelqu'un est libéré qu'il soit dangereux. Et ces gens-là vont souvent, malheureusement, essayer de s'auto-traiter avec des drogues. Il y a déjà un problème de drogue, mais nos patients sont plus sensibles à ça. Quand ils prennent de la drogue, ils oublient leurs problèmes, ils sont comme dans une bulle à ce moment-là, donc ils ont plus tendance à aller prendre de la drogue. Et là, ça peut aller très vite. Même un patient bien médicamenté, qui est stable, s'il prend de la drogue, la protection offerte par la médication ne résistera pas. Et c'est ça peut aller très vite.
Si il est dans un institut, ben on va faire en sorte qu'il prenne ses médicaments. Une fois qu'il est dans la rue, il y a rien qui nous dit qu'il va prendre ses médicaments, là.
Avant qu'on s'aperçoive que le patient est décompensé, des fois ça peut aller vite. Il y a des fois des symptômes d'appel, on peut le voir, mais parfois ça peut aller très très vite. La première manifestation qu'on va avoir, c'est que le patient devient agressif.
Et en terminant, docteur Chamberlain, est-ce que j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant? Faut dire que je travaille moi là en plein dans le cœur là de la misère humaine à Montréal. Mais selon vous, au PIF là, est-ce qu'il y en a plus qu'avant des gens qui ont vraiment des gros problèmes puis qui peuvent devenir violents là?
Il y en a plus qu'avant à cause des substances. Si c'était pas des drogues, c'est assez stable dans le temps. Et là, on s'est rendu compte qu'une drogue comme le cannabis, il y a les psychoses induites pendant qu'on est intoxiqué, mais on se rend compte que le cannabis peut induire une schizophrénie. Et pas simplement une psychose pendant qu'on est intoxiqué. Dans l'étude que j'ai lue, 25% des schizophrènes, je l'ai vu en Norvège ou en Suède, seraient jamais devenus schizophrènes s'ils n'avaient pas consommé de cannabis. Et surtout que c'est consommé à un âge où le cerveau est très fragile. Donc là, on a un problème. On fait pas juste créer la psychose, on crée de la maladie qui va devenir autonome comme maladie, même quand on ne consomme pas.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'on a été trop complaisant peut-être envers le cannabis. Là. On n'a pas vu les dangers que ça peut avoir de fumer du pot là, souvent.
En fait, on l'a vu, mais il y a tout un marketing comme quoi c'est une drogue douce. Si le cerveau est formé, si on est un adulte après 22 ans, c'est pas si mal. Mais si on est avant cette période-là, pendant que le cerveau est en train de se former, c'est grave.
Et docteur Chamberlain, le Lionel Carman, le ministre, a dit qu'il va y avoir moins d'hôpitaux là, qui vont s'occuper des individus déclarés non criminellement responsables. Il y avait trop d'hôpitaux et c'est ça. Donc, ils pouvaient, on connaissait pas trop les cas. Là, on savait pas que ça faisait 5 fois que la personne se faisait arrêter, tout ça. En ayant moins d'hôpitaux, ben on va pouvoir plus connaître là, la nature là, des problèmes de ces gens-là. Vous en pensez quoi?
C'est une très bonne nouvelle. C'est une sur-spécialité de la psychiatrie. On peut pas avoir de la chirurgie cardiaque partout. Ça demande toute une organisation pour détenir ces gens-là à l'hôpital, toute une sécurité. Donc, on va concentrer ça pour mieux les traiter. C'est une très bonne nouvelle. Des patients détenus sur une unité de psychiatrie générale où on peut retrouver des personnes âgées, puis ça a presque pas de sens. C'est très difficile de les détenir dans un contexte où on veut assurer la liberté des autres patients. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Il y a des patients qui ne pourront pas être traités dans leur secteur directement, mais c'est la même chose pour toutes les sous-spécialités. On ne peut pas avoir toutes les sous-spécialités dans notre secteur.
Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Dr. Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Merci beaucoup. Bonne journée.
Ça fait plaisir. Au revoir.